C'était il y a un an, jour pour jour. Le CETA, l'accord commercial de libre-échange entre l'Europe et le Canada, entrait en vigueur provisoirement. Décrié par de nombreux citoyens et politiques, il s'avère en fait positif pour l'économie européenne, indique la Commission. Détail dans un instant.
Un bilan positif pour les 28, alors que l'OCDE s'inquiète, elle, de la croissance en berne dans la zone euro ou encore au Royaume-Uni, Catherine.
Et ce, à cause des replis nationalistes sous l'effet du Brexit. Theresa May, seule contre tous, ou presque, dans l'Union européenne. Les 27 ont dit hier qu'ils étaient disposés à voir échouer les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne si Londres ne fait aucune concession sur la question du commerce et sur celle de la frontière irlandaise. Des mots très durs d'Emmanuel Macron à suivre dans ce journal. La conférence des évêques s'inquiète de l'extension de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes. Texte publié hier soir dans lequel les catholiques mettent notamment en avant l'importance de la référence paternelle.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, emploi non pourvu, de quoi parle-t-on ? Je poserai la question à Eric Heyer, qui dirige le département analyse de l'OFCE.
Et si la croissance mondiale avait atteint son pic, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, revoit à la baisse ses prévisions pour cette année. 3,7% au lieu des 3,8% envisagés en mai dernier. Un léger recul qui devrait se confirmer l'an prochain, estime l'OCDE, dans un contexte de repli protectionniste tous azimuts, sans viser nommément les États-Unis de Donald Trump en guerre commerciale contre la Chine notamment. L'OCDE précise qu'un nouvel essor des tensions commerciales sous la forme de droits de douane supplémentaires aurait des conséquences néfastes sur le commerce, affecterait la production ainsi que les revenus des ménages dans les économies imposant de telles restrictions. Perspective morose également dans la zone euro, Jean-Marc Chardon.
La zone euro n'est pas épargnée avec une croissance qui plafonnerait à 2% en 2018. La France faisant pâle figure, elle pourrait terminer à 1,6%, loin des attentes du début d'année. Mieux tout de même que le Royaume-Uni, dont l'effet Brexit amplifie le ralentissement, qui oscillerait à 1,3%, au point de se retrouver au coude à coude avec l'Italie. Londres qui décline quand Rome a toutes les peines à se relever économiquement. À l'évidence, la zone euro qui faisait la course en tête avec les États-Unis à la même époque, l'an dernier, s'essouffle. On ne peut pas encore parler d'attentisme, mais les industriels mesurent leurs investissements alors qu'ils sont incités à les renforcer. La zone euro devrait toutefois reprendre quelques couleurs l'année prochaine, d'après l'OCDE, quand les émergents risquent de vivre des épisodes de croissance contrastés. Une partie des émergents, Turquie, Argentine, Afrique du Sud en premier lieu, eux qui ont vu la valeur de leur monnaie dégringoler, fragilisée indirectement par les tensions commerciales. Le risque n'est pas exclu de voir des économies décrocher, alors que d'autres, le Brésil, l'Arabie Saoudite, sont sur une pente ascendante, quand l'Inde continue, elle, de faire exception avec un taux de croissance qui a passé la barre des 7%. Elle fait maintenant mieux que la Chine.
Et dans ce contexte économique, arrêtons-nous à présent sur le bilan du CETA, un an tout juste après son entrée en vigueur. On s'en souvient, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada avait fait couler beaucoup d'encre, mobilisation notamment citoyenne contre les choix de Bruxelles. Et bien aujourd'hui, la Commission européenne et le Trésor estiment que le CETA est bénéfique pour l'économie européenne, Delphine Simon.
Premier constat, le CETA profite aux exportations européennes, même s'il est difficile d'en mesurer l'impact réel. Sur 9 mois, le commerce augmente de 7% selon la Commission européenne. En France, la hausse est de 2% en rythme annuel. Premier secteur à bénéficier de la fin des droits de douane, le secteur du vin et des alcools, devant l'aéronautique, la parfumerie, le luxe ou les équipementiers automobiles. En revanche, il n'y a pas eu d'effet CETA pour les fromages à AOP. Les Canadiens semblent préférer le parmesan et le cheddar au camembert et au roquefort. Pas de big bang non plus sur les importations de viande de bœuf canadien, malgré les craintes des éleveurs français. Finalement, moins de 1% des 18 000 tonnes de bœuf autorisées ont été exportées vers l'Europe au premier semestre. Selon le Trésor, la filière canadienne n'est pas en mesure d'exporter de la viande aux normes européennes, sans hormones et sans OGM. Un effet retard en quelque sorte, reste à savoir si les Canadiens seront en mesure de le combler.
Le CETA entré en vigueur de manière provisoire il y a un an doit encore être ratifié par tous les 28. 11 pays membres de l'UE l'ont déjà fait, la France non. Une première réunion de suivi entre la Commission européenne au commerce et le Canada se tiendra la semaine prochaine à Ottawa.
Et puis l'Union européenne focalisée en attendant sur la question du Brexit.
À 6 mois de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, la première ministre britannique a été priée hier de revoir sa copie pour finaliser les modalités de divorce d'avec Bruxelles. Blocage encore et toujours sur la nature de la frontière en Irlande, sur la future relation économique entre Londres et l'Union européenne. Les propositions britanniques ne sont pas acceptables en l'état car elles ne sont pas respectueuses de l'intégrité du marché unique, a déclaré Emmanuel Macron hier lors d'un sommet informel des 27 à Salzbourg en Autriche, comme un avertissement à tous les eurosceptiques.
Le Brexit, c'est le choix du peuple britannique. Et c'est un choix d'ailleurs poussé par certains qui prédisaient des solutions faciles. Donc le Brexit, il nous dit une chose, et je respecte pleinement la souveraineté britannique en disant cela, il nous a démontré que ceux qui expliquent qu'on peut faire facilement sans l'Europe, que ça va très bien se passer, que c'est facile et que ça rapporte beaucoup d'argent, sont des menteurs. Et c'est d'autant plus vrai qu'ils sont partis le jour d'après pour ne pas avoir à le gérer. Je le dis parce que vous avez raison, c'est jamais bon quand les discussions deviennent techniques, longues, mais il ne faut pas qu'elles soient exploitées par ceux-là même qui ont été les causes de ces problèmes. Qui nous a mis dans la situation du Brexit? Les mêmes qui aujourd'hui vous disent que l'Europe va de crise en crise et discute trop longuement. Les mêmes. Donc le Brexit, ça nous montre une chose, c'est pas si facile de sortir de l'Union européenne, ça n'est pas sans coût, ça n'est pas sans conséquences.
Emmanuel Macron hier lors du sommet européen de Salzbourg en Autriche. Emmanuel Macron dont les propos font la une ce matin du Daily Telegraph à Londres. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Manière après le journal de 7h30. Les médias britanniques reviennent en boucle sur l'humiliation subie par Theresa May, la première ministre britannique. Sommée donc par les 27 de revoir son plan Brexit d'ici octobre ou novembre. Theresa May a acquis 30 à 40 députés de son propre camp conservateur, le répète, ils sont prêts à voter contre elle et contre son plan de retrait de l'UE. Nouvel avertissement lancé hier par l'ancien ministre britannique chargé du Brexit, David Davis, les Tories divisés avant un congrès à la fin du mois. En France, la droite est elle aussi divisée sur la question européenne, mais cette fois, c'est à propos de Viktor Orban, le premier ministre nationaliste hongrois, accusé par le Parlement européen de violer les valeurs fondamentales de l'UE. Viktor Orban, dont le parti siège avec les eurodéputés Les Républicains à Bruxelles et à Strasbourg, au sein du PPE, le Parti Populaire Européen. Viktor Orban a toute sa place au sein du PPE selon le patron des LR, Laurent Wauquiez, position contestée par Valérie Pécresse, la présidente LR de la région Île-de-France. Deux visions politiques, deux visions de l'Europe qui s'affrontent en ce moment aux journées parlementaires Les Républicains. Pas anodin à 8 mois des élections européennes, estime la politologue Virginie Martin.
Je pense quand même qu'on peut pas dire qu'il s'agisse d'un épiphénomène, mais plutôt d'une vraie fracture. Une vraie fracture parce que d'abord elle a des résonances et elle fait écho ailleurs et sur d'autres thèmes. Mais là, sur Orban, il y a quand même une Europe plus populiste. Wauquiez a beau dire finalement Orban, on va pas le condamner complètement parce que sinon il va basculer dans les extrêmes. Est-ce qu'il n'est pas déjà dans les extrêmes pour l'interrogation, dans la mesure où il bafoue plutôt allègrement l'état de droit, la question de la justice, de la liberté de la presse. Il y a quand même un certain nombre de marqueurs tout de même très très noirs hein, chez Orban. Et du coup, Laurent Wauquiez qui dit bon, on va pas condamner complètement pour pas qu'il bascule dans les extrêmes, mais comme je vous le disais, où commence l'extrême et où est-ce qu'il finit? Est-ce qu'on n'y est pas déjà? Donc non, ça révèle quand même une fracture idéologique, et puis on voit bien que derrière il y a Hortefeux, il y a Morano, qui suit plutôt cette position Wauquiez. Versus la position Pécresse, etc.
La politologue Virginie Martin, interrogée par Stanislas Vazak. Elle refuse de se soumettre à une expertise psychiatrique. Marine Le Pen s'est insurgée hier contre la demande judiciaire faite dans le cadre de l'enquête la visant pour avoir diffusé des photos d'exactions du groupe État islamique sur Twitter, un examen pourtant prévu par la procédure pénale. Dans les régimes totalitaires, c'est une des méthodes qui est utilisée contre les opposants, affirme Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, soutenu par son allié italien Matteo Salvini, par Steve Bannon, l'ancien conseiller du président Donald Trump aux États-Unis, mais aussi par Nicolas Dupont-Aignan en France et par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. En avril dernier, devant la conférence des évêques, Emmanuel Macron avait déclaré vouloir réparer le lien entre l'Église et l'État qui s'était abîmé, appelant les catholiques à ne pas rester au seuil de l'engagement politique. Dont acte, la conférence des évêques de France a publié hier soir une déclaration intitulée « La dignité de la procréation », signée donc par tous les évêques, engagement ferme contre la PMA pour toutes, la procréation médicalement assistée pour femmes célibataires et pour les couples de lesbiennes, alors que le Conseil consultatif national d'éthique publiera mardi prochain son avis sur les sujets débattus lors des états généraux de la bioéthique. Les précisions de Delphine Evenoux.
Ce n'est pas une position nouvelle, mais avec ce document de plus de 100 pages, l'Église catholique argumente très en détail ses positions sur le risque de marchandisation des gamètes, la disparition potentielle de la filiation paternelle ou encore l'individualisme, selon elle, du projet parental. La Conférence des évêques de France y rejette aussi une nouvelle fois l'argument de l'égalité avancé par les partisans de la PMA pour toutes. Monseigneur Pierre Dornella, archevêque de Rennes, a piloté les travaux du groupe bioéthique.
C'est une situation différente entre un couple hétérosexuel qui demande une technique d'assistance médicale à la procréation et un couple homosexuel. Donc ce sont deux situations qui ne sont pas égales et donc qui ne demandent pas une égalité de traitement.
Et pour l'Église, les difficultés des femmes célibataires et des couples de femmes ne doivent pas primer.
Je vois bien qu'il y a des souffrances et la dignité demande que nous accompagnions ces souffrances. Mais j'appelle de mes voeux ce dialogue qui permet d'avancer ensemble pour chercher ce qui est le plus juste pour tout le monde, pour notre pays.
Avec ce texte publié à quelques jours de l'avis du Conseil national de bioéthique, et alors que l'extension de la PMA à toutes les femmes était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, l'Église catholique espère bien peser dans l'examen du projet gouvernemental de révision des lois de bioéthique qui débutera en janvier. Leur texte va être envoyé à tous les parlementaires.
Trois personnes ont été tuées et trois autres blessées hier lors d'une nouvelle fusillade aux États-Unis dans une zone industrielle de l'État du Maryland. Attaque commise, et c'est assez rare pour être souligné, par une jeune femme qui s'est suicidée et dont les motivations restent pour l'instant inconnues. Retour en France avec la plateforme Parcoursup qui ferme ce soir, alors que 2500 candidats à l'enseignement supérieur n'ont toujours pas d'affectation pour cette année. Un chiffre officiel donc moindre que celui de l'an dernier. 3500 candidats étaient restés à cette heure-là sur le carreau avec l'ancienne plateforme APB. Sur sa route vers New York et l'Assemblée générale de l'ONU, le président palestinien Mahmoud Abbas fait escale à Paris aujourd'hui, où il sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Alors que les mauvaises nouvelles se multiplient du côté américain, transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, fermeture du bureau de l'OLP à Washington, non-paiement également de la quote-part américaine à l'agence onusienne l'UNRWA, Mahmoud Abbas compte ses amis et la France fait sans doute partie des plus fidèles. Le temps de ce vendredi 21 septembre partagé en traverse et éclaircie, température comprise ce matin entre 12 et 20 degrés du nord au sud. Au meilleur de la journée, il fera entre 17 et 21 sur un grand quart nord-ouest de l'Hexagone. Comptez de 21 à 26 dans le sud-ouest, 26 à 30 pour la moitié est. Guillaume Erner.